Hey, salut! Hey, aujourd'hui, on a décidé de te faire une petite chanson rien que pour toi. Car aujourd'hui, c'est ton jour et on s'est dit que ça te ferait plaisir. En plus, cette chanson, elle va t'aller comme un gant. Surprise!
Et voilà, aujourd'hui, c'est le grand jour. Il va falloir que tu prépares un discours. Un an de plus, c'est pas de remède pour ça. Bois un petit coup et ça passera.
Particulière. Alors, je ne sais pas si vous allez entendre cette partie avant ou après cette petite surprise que nous vous avons préparée grâce à notre invité. Mais en tout cas, je suis ravi de retrouver déjà mes deux premiers co-animateurs du jour, en espérant que le troisième puisse régler ses petits soucis au moment de cet enregistrement. Donc, tout d'abord, on va présenter celui qui a créé. C'est lui qui a l'idée, qui a eu l'idée de l'apéro des papas manchots. Donc on ne peut que le citer en premier. Bonjour John, comment vas-tu?
Bonsoir. Je vais bien, merci.
Ouais. Tu te sens pas
Je
trop
rêve vieux. D'Italie.
Ah oui. Tu te sens pas trop vieux après 48 émissions, même plus de 48.
Ah si. Je commence à boiter. Bah d'ailleurs, j'ai même oublié de venir à la précédente pour dire.
Bah oui, on t'a cherché. C'est voilà. Et celui qu'on a le plaisir déjà d'entendre dès maintenant. Bonjour Fabrice, comment vas-tu?
Bah salut à vous, bah ça va bien. Ça faisait pas longtemps déjà la dernière émission, mais
ouais,
content mais bon. De vous retrouver. Bah content ouais, de... oui, bah ouais, on est confiné, donc on a bien du temps dans nos soirées.
Voilà. Et bien sûr, alors comme vous avez dû vous l'entendre, soit avant ou si vous l'entendez après, nous avons eu la chance d'avoir un invité ce soir, donc on va le présenter tout de suite. Bonjour Renaud, comment vas-tu?
Bah très bien, merci.
Merci, on va bien. En tout cas, Renaud, est-ce que tu peux te présenter rapidement pourquoi tu es là avec nous, en notre compagnie pour cette émission anniversaire?
Alors, je suis Renaud, je suis le développeur d'un logiciel qui s'appelle Rollisteam, qui est une table virtuelle pour faire du jeu de rôle, qui est un logiciel libre. Et ce soir, je vais vous faire une petite partie de jeu de rôle. Voilà.
D'accord, bah écoute, en tout cas, on est impatients de la faire. Donc maintenant, on a compris que cette partie-là, finalement, elle ne sera pas à la fin, mais au début de l'émission. Voilà, donc la petite magie du montage n'aura pas lieu, on fera ça au début. Et bon, bah pour cette émission anniversaire, on va d'abord faire quelques petits commentaires avant de lancer la partie, parce que nous attendons désespérément notre quatrième animateur, hein, voilà, afin de pouvoir lancer la partie. Alors, messieurs, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un petit truc à boire ou pas ce soir?
Bah moi, je suis à la tisane ce soir.
Ah, pisse mémé, c'est pas ça ou...
Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, c'est une tisane, circulation. Non, la dernière fois, une bière tous les 15 jours, ça me suffit, moi, tu sais. Je commence à être vieux aussi.
Ouais, puis tu veux garder ton corps svelte et athlétique.
Ouais, non, mais la dernière, en plus, elle était un peu forte, ça m'a foutu un coup de bambou. Après, ah ouais. heureusement, on avait des très bons invités, donc je les ai laissés parler, je les écoutais, mais j'étais complètement claqué après.
Ah ouais, ils étaient très bons, nos invités de la dernière fois également. Ok, ok. Bon, bah moi, ce soir, j'ai fait une petite exception. Alors, on m'avait fait des reproches. Je ne citerai pas qui, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a fait des remorques, je pense, disant, ouais, ton whisky de marque de distributeur, ton... Mais là, cette fois-ci, j'ai continué, non pas avec du whisky, mais je suis avec du pastis. En marque repère, donc on verra bien ce que ça donne, je le testerai un petit peu plus tard, voilà, mais bon déjà, rien qu'à vue de nez, la bouteille fait un peu peur, donc c'est bon, j'hésite peut-être à l'ouvrir, je sais pas, il est marqué à 45 dessus, alors est-ce que c'est le degré d'alcool? Ah oui, c'est le 45% par volume, donc ça va, au moins ils préviennent tout de suite, ils te le mettent en le grand, tu vois, c'est en fait, je pense qu'ils mettent ça à côté du desktop, tu vois, pour les WC, hein. Ah ouais, donc là c'est pour ça, ça me fait un peu peur.
Parce que normalement, pastis c'est 51.
Bah là c'est 45.
Et Ricard, y a pas un numéro aussi?
Je me demande, bah je pense que le pastis c'est 51, ça c'est sûr, mais le Ricard.
C'est 27, OG.
Non, ça c'est le Jet.
Ouais, non,
c'est ce que j'ai dit, c'est 27 OG.
Ah non, tu vois.
Bah quoi, on va bien jeter des dés ce soir.
Oh,
et on parle pas de Dédé le cochon, c'est pas Dédé, il est où le cochon?
Ouais. Ah bah. Ouais, alors, chez Ricard, tiens d'ailleurs, ils font des bouteilles à collectionner maintenant. Ouais. Les mignonnettes Ricard, ouais, les 3 à 9,90, ça va. Ok, non, mais il y a pas le. C'est marrant, ils mettent pas le. Et ils sont pas quand même, ils se font plaisir chez Ricard. Les, je sais pas si t'as dû peut-être connaître ça, tu sais Fabrice le, même Renaud peut-être il a connu, tu sais t'as le petit comment dire bro, tu vois, pour servir les verres.
Ouais.
Et ben bah, maintenant ils vendent la bouteille, le petit bro et 6 verres Ricard avec un petit support, 109,90€.
Ouais, c'est pas mal.
Ça va. Hein, maintenant que tu vois, quand tu vas dans les vides greniers tout ça, puis tu te dis ah oui tiens les verres de bière tout ça ça vaut cher, bah quand tu vois déjà les prix des verres de Ricard, c'est bon quoi, et ils doivent être en plaqué or à ce prix là ah ouais. Bon bah et qu'est-ce que quelqu'un d'autre a un petit quelque chose à boire pour ce soir? John peut-être?
Moi je suis sous caféine.
Ah bah de la Senseo.
Oui.
Ah bah ça, elle est connue dans ton street cat aussi, celle-là.
Et j'ai pris le soin de le faire blé avant.
Oh.
Pendant le temps où mon PC redémarrait pour rien.
Ah oui, donc c'est pour ça, ça nous a évité d'entendre les bruits de la cafetière. Et voilà. Renaud, est-ce que tu bois quelque chose ou pas?
Alors j'ai bu de la soupe.
Ah bon, c'est très bien.
C'est vraiment une émission du vieux. C'est une émission du vieux ce soir.
Et nos larmes salées à la fin de l'épisode.
Alors pour le coup, moi je bois pas d'alcool, donc du coup.
Voilà. Bon, on a toujours. Mais c'est pas grave, hein, tu vois.
T'as le droit,
tu sais, nous on accepte tout le monde. Hein, là-dessus, il y a pas de souci. Bien au contraire. En plus, bah tiens, tant qu'on y est. Avant que notre cinquième larron arrive, et tu nous as parlé de ton logiciel, mais comment ça t'est venu l'idée de lancer dans un logiciel libre autour du jeu de rôle?
Alors, c'est une longue histoire. En fait, à la base, le logiciel, c'est pas moi qui l'ai créé, c'est un logiciel qui s'appelait Rollistic et qui avait été développé par par quelqu'un, Romain Campioni, je crois, quelque chose comme ça. Mm-hmm. Je m'excuse si c'est pas ça, mais voilà. Et en fait, en 2008, il y a quelqu'un qui a posté un message sur le forum ubuntu.fr.org qui a demandé de l'aide pour faire en sorte que Rollistic fonctionne sous Linux. Mm-hmm. Il y a eu différentes réponses pour l'aider, etc. Et à ce moment-là, moi, j'étais en stage de fin d'études. Mm-hmm. J'étais aux États-Unis. Pour être honnête, je me faisais vraiment chier en fait, puisque j'étais dans une région des États-Unis assez campagne en fait, et ouais. J'avais pas de bagnole, et donc du coup, comme c'était en plus très orienté sur les technologies qui m'intéressaient, j'ai participé à la conversation et du coup, j'ai commencé à aider. Et en fait, le logiciel, il était compatible Linux via quelques modifications dans le code source. Mm-hmm. Et donc, on a fait, j'ai fait ces modifications-là, et donc, de fil en aiguille, j'ai proposé des versions, des choses comme ça, sur le forum. En un temps, au bout de quelques mois, j'avais fait quand même pas mal de modifs, et je m'étais dit, c'est un peu con de le laisser mourir sur un post de forum qui va tomber dans l'oubli. Et donc, j'ai pris ce que j'avais fait, je l'ai mis à disposition à l'époque sur une plateforme Google, quoi, qui était un peu clé en main et qui me prenait pas, ça me permettait de pas me prendre trop la tête pour tout gérer, quoi. Et voilà. Et donc, potentiellement, je vais continuer à travailler dessus au fur et à mesure. Et en fait, très tôt, j'ai commencé sur une grosse réécriture pour changer plein de choses, péter tout ce qui était pas très beau dedans, et voilà. Et au final, ça m'a pris pas mal de temps, et du coup, je suis revenu un petit peu, et j'ai fait rentrer les modifications de ma réécriture petit à petit, et voilà, et donc maintenant ça évolue pas mal, quoi. Mmh. Et après, pourquoi j'ai fait ça? Principalement, ça me permet d'avoir un contact avec le technique que j'ai pas toujours dans mon travail, en fait. Mmh. Et au plus ça va, au plus je commence à manager, etc. Et donc ça m'a permis de garder la tête et les mains dans le cambouis, quoi. Mmh. Et voilà, et puis ça me permet de me poser des questions un peu intellectuelles, un peu intéressantes, un peu rigolotes, quoi. Voilà.
T'es développeur à la base?
Ouais, je suis développeur, ingénieur logiciel en C++. Mmh. Et voilà, quand j'ai commencé à travailler, je faisais exactement la même chose que ce que je faisais sur le logiciel, puisque je m'étais vraiment spécialisé donc sur un framework qui s'appelle Qt, qui en gros, je sais pas si le mot framework parle à tout le monde, mais c'est en gros les briques que le développeur utilise pour fabriquer le logiciel, quoi. Mmh. Et voilà, et donc du coup, ces briques-là, il faut les connaître et ça va un peu mieux et ça va plus vite de créer un logiciel avec, quoi. Mmh. Et donc, comme je me suis spécialisé là-dedans, avoir un logiciel qui était un peu qui utilise ces mêmes briques, ça me permet de tester de nouveaux trucs, voir un peu l'évolution, faire de la veille technologique, etc. Et voilà, et après, j'ai eu des postes où j'ai été un peu plus manager, enfin où je gérais des gens, où j'étais un peu moins dans le développement pur. Et donc ça m'a permis de rester un peu accroché, on va dire, au développement, même si maintenant je suis revenu un peu plus dessus. Et dans mon activité professionnelle, j'ai travaillé pas mal dans l'automobile, dans les effets spéciaux, et là dernièrement je suis dans la robotique. Voilà.
D'accord.
Et t'es libriste à la base ou pas plus que ça, ou tu t'es intéressé?
Oui, je suis libriste depuis je pense depuis la moitié de ma fac à peu près, quoi. La moitié de mes études, en fait. Mmh. J'ai fait un DUT, et dans mon DUT on avait pas mal de profs qui étaient quand même pro Linux, quoi. Mmh. Nous, on était des lycéens qui étaient devenus étudiants, donc on connaissait pas trop Linux. De fait en aiguille, on s'y est mis parce qu'on avait des cours là-dessus, quoi. Et donc, du coup, à la fin de mon DUT, quand j'ai commencé ma licence, je me suis pris un PC portable pour prendre mes cours, et je l'ai mis sous Linux. Et depuis, j'ai pas quitté Linux, quoi.
D'accord. Ok.
T'es quel distro? Juste pour.
À l'époque, j'en ai testé beaucoup, mais maintenant je reste sur Ubuntu simplement parce que c'est celle qui me demande le moins de maintenance, en fait. C'est celle où le temps que j'utilise pour configurer mon PC est le plus court, en fait. Sachant que j'administre aussi des serveurs qui sont eux sur Debian, quoi. Debian stable.
D'accord. Ok. Bon, on va présenter. Alors, tu nous as parlé de ton logiciel, mais tu ne l'as pas présenté en détail. Alors, moi, comme je te disais, on rentrait.
À quoi il sert?
Voilà, à quoi ça sert? Parce que moi, le jeu de rôle, j'y connais pas grand chose, voire rien du tout. Donc, moi déjà, l'intérêt d'avoir un logiciel comme le tien dans du virtuel, déjà, et à quoi ça sert?
Alors déjà, Rollsteam, c'est plus qu'un seul logiciel. Enfin, avant c'était un seul logiciel, mais maintenant c'est plus que ça, il y en a plusieurs. Mmh. Donc il y a le logiciel Rollsteam qui sert de de table virtuelle, je reviendrai là-dessus. Il y a RCSE qui est un logiciel pour fabriquer des fiches de personnages. Et j'ai aussi quelques trucs qui gravitent autour, notamment Dice Parser qui est un bot, qui est en gros le système de dés de Rollsteam qui a été conçu pour être vraiment une brique indépendante et qui du coup est utilisable dans Discord.
Ouais.
Via un bot et sur Twitter également.
D'accord.
Voilà, et donc j'ai un compte Twitter qui est aussi un bot qui sert de gestion de communauté autour du jeu de rôle, quoi.
Mm-hmm.
Voilà, et j'ai fait d'autres trucs un peu plus expérimentés, un peu plus expérimentaux, on va dire, mm-hmm. Autour de ça, mais voilà. Et donc, Rollsteam, le logiciel, je reviens dessus, donc c'est une table virtuelle, donc en gros, le jeu de rôle, c'est une activité sociale, au même titre que jouer à des cartes, jouer à la belote, au poker, etc. Donc c'est en gros des gens qui se réunissent autour d'une table.
Oui.
Et du coup, le logiciel il vient remplacer cette table. Donc il permet aux gens de se rassembler à un endroit. Donc pour ce faire, ça utilise une connexion réseau. Donc il faut se connecter sur un serveur et voilà. Et sur cette table-là, on peut partager des images, on peut lancer des dés, on peut s'envoyer des petits messages. Donc,
oui.
On peut dessiner des plans et ce genre de choses, quoi. Voilà.
D'accord. Okay. Simplement. Ok. Donc ça remplace le plateau de jeu classique, en fait.
C'est ça. D'accord. Alors il n'y a pas encore la gestion des MMM, c'est du soda, mais ça permet de ça permet de prendre en compte, on va dire, toute la partie jeu, avec en essayant d'y apporter un peu plus de d'automatisation que lié à l'ordinateur, quoi.
Mmh.
Qui peut fabriquer qui peut calculer des règles, choses comme ça. Sachant qu'en jeu de rôle, en général, dans une configuration assez classique du jeu de rôle, il y a un maître de jeu qui va décrire une histoire et les gens autour de la table interprètent des personnages qui sont dans cette histoire, donc qui sont des protagonistes de l'histoire, et donc ils vont choisir d'intervenir ou pas, ils vont choisir leur action, leur dialogue, etc.
Mmh.
Souvent, pour décrire les personnages, on a une fiche de personnages qui est décrite avec des nombres. Souvent, on va dire les points forts et les points faibles d'un personnage. Et donc, du coup, Rollsteam a aussi du coup un logiciel pour créer ces fiches-là et pouvoir les jouer et pouvoir les utiliser à l'intérieur de Rollsteam.
D'accord. Donc chaque personnage a une grille de compétences avec une valeur qui lui est attribuée.
Ouais.
J'essaye de prendre un exemple quelconque, mais genre si dans ton jeu il y a une espèce de grand Golgoth qui est juste bon à frapper, il va avoir une très bonne force mais très peu de compétences
en social ou intellectuel,
et puis en parallèle de ça tu vas peut-être un magicien ou quelqu'un qui une sorte de rebouteux qui va être très fort pour aider ses partenaires mais qui va être un mauvais combattant, et ça faut que t'arrives à gérer plusieurs de critères et plusieurs personnages comme ça. Donc comment ça se passe après? Donc est-ce que tous tes personnages ils sont toujours les mêmes critères ou tu peux en rajouter avec des variables à chaque fois?
Ça dépend des jeux, en fait. Il y a des jeux qui vont avoir des critères très très marqués avec des nombres, d'autres qui vont avoir des critères avec des expressions genre vétéran, débutant, expérimenté. Un genre de choses, quoi. Et donc c'est très variable, le jeu de rôle.
Et ça serait le même personnage. C'est-à-dire que c'est juste qu'il y a un niveau de compétence différent parce qu'il est moins expérimenté que les autres. Dans ce cas-là, dans ce que tu disais tout à l'heure, entre vétéran, débutant.
En fait, pour faire une explication, une fiche de personnage, dans les jeux de rôle sont édités sous format de livre, le plus souvent.
Oui.
Donc, à la fin de chaque ouvrage, il y a la fiche de personnage qu'il faut photocopier et remplir et la distribuer aux joueurs. Donc moi, ce que je me permets de faire, c'est de numériser ça, en fait, de numérer cette fiche-là, et donc de permettre d'avoir un visuel très très proche de la version officielle du jeu, donc de l'image qu'on a dans le bouquin.
Mmh.
Et de mettre les valeurs qu'on veut dedans. Donc, si ça demande un texte, on peut mettre un texte. Si ça demande un nombre, on met un nombre, etc. Et potentiellement, si on a le temps, on peut aussi faire des calculs automatiques. Parce qu'il y a certains jeux qui ont des règles comme je sais pas moi, la difficulté pour toucher le personnage, c'est sa dextérité plus sa classe d'armure, quoi, par exemple. Mmh. Et voilà. Et donc, il y a des règles comme ça qu'on peut automatiser, ou on peut le faire en format, c'est comme du papier, où en fait le papier ne fait rien, et ça affiche, il n'y a pas de précalcul, et tout se fait à la main comme on le ferait avec un crayon, quoi. Voilà. Et donc, le truc, c'est qu'il y a. Les jeux de rôle, c'est écrit par des auteurs, et que les auteurs ont tendance à chercher, on va dire, à pousser un peu les limites, trouver de nouveaux systèmes, trouver de nouvelles approches pour s'approprier le personnage, pour le faire vivre, etc. Ouais. Et donc, il y a une multitude, en fait, de systèmes et de façons de décrire un personnage. Et donc, c'est parfois assez compliqué de pouvoir tout gérer. On va dire que Rollisteam s'attache à gérer le plus... on va dire d'une façon assez générique.
Ouais.
Et en fait, c'est les maîtres de jeu qui veulent jouer, qui doivent concevoir leur fiche de personnage et ajouter le contenu qu'ils veulent, quoi. Donc, il y a quand même une création à faire au niveau du maître de jeu qui veut jouer pour, s'il a envie, hein, de numériser les fiches et de rendre l'expérience un peu plus fluide. Mmh. Il doit investir un peu de temps au début, pour permettre ça, quoi.
D'accord. Et donc concrètement, avant de lancer une partie sur Rollisteam, tu dois paramétrer le logiciel avec différents critères.
Alors,
Je veux dire, par rapport d'une partie à une autre, tu dois relancer reconfigurer certains paramètres. Si tu changes de jeu ou de scénario.
En fait, le MJ peut créer il va créer son scénario qui va contenir, ouais, tous les documents qu'il a besoin. Donc ça peut être les images des lieux que les personnages visitent, les images des personnes que rencontrent les joueurs, ouais, un fichier texte qui décrit l'histoire, etc. Donc il peut mettre un peu différents types de médias, on va dire, à l'intérieur de son scénario, ouais, et il peut sauvegarder ce scénario et dire le scénario de ma table du lundi c'est tel fichier, mon scénario de ma table du vendredi c'est un autre fichier où il y a d'autres images, d'autres trucs, et à l'intérieur de ce scénario il peut sauvegarder les fiches de personnages qu'il aura créé avant, etc., etc. Donc ça permet en fait au lancement, le maître de jeu n'a qu'à ouvrir le bon scénario et ça vient charger tous les réglages qui conviennent. Voilà, sachant qu'il y a quand même, il y a quand même des petits trucs, mais c'est vers cette optique-là que je me rapproche, donc c'est en général assez simple, quoi.
D'accord. Tu disais tout à l'heure, par exemple, en antenne, qu'il y a des jeux où il y a une dizaine de personnages différents, donc tu adaptes ça sur le nombre de joueurs et puis le rôle que chaque joueur va avoir.
Ouais, ouais.
Et ça, tu dois le paramétrer dans le logiciel ou pas du tout. C'est lui, il va juste lancer le scénario et puis après, toi, au fur et à mesure, tu vas, toi, comme en tant que maître de jeu, tu vas dire tel personnage a été attaqué, il a perdu autant de points de vie ou il a perdu la partie parce que il a été tué par un tel ou X a gagné parce que il a réussi sa quête, quoi.
Pour faire un exemple, on va dire un peu concret, tous les jeudis, je joue à une partie de loup-garou, mes persos. Ouais. Donc, je lance le logiciel, je charge mon scénario loup-garou. À l'intérieur, j'ai quelques cartes de Boston parce qu'on joue à Boston dans le monde contemporain.
Ouais.
J'ai j'ai un fichier qui contient tous les fiches de personnages des gens, donc j'ai tous les personnages de la campagne qui sont dedans, même les personnes qui ont quitté la campagne et qui ont participé quelque temps et qui ont arrêté, donc leur personnage est encore dedans, donc s'ils reviennent, je serai capable de leur redonner le personnage.
Ouais.
Donc moi, en début de partie, je dis tel personnage va être affecté à tel joueur, donc le joueur reçoit son personnage, donc il a toutes les valeurs qui vont bien, et donc quand un personnage me dit je fais une attaque, il regarde ses scores, il lance les dés en fonction, donc la fiche permet de cliquer pour lancer les dés rapidement, en fait on n'a plus besoin de taper de commande, donc il sélectionne 2-3 trucs, il appuie sur clic, ça envoie le jet de dés, j'obtiens le résultat, moi avec le résultat je dis tu as touché, tu as blessé ton adversaire, il est gravement blessé, il est quasiment indemne, etc.
Ouais.
Et donc, moi je fais jouer l'action du personnage en face potentiellement, ou si c'est un autre joueur qui est attaqué, bah, c'est l'autre joueur qui répond. Et quand un joueur est blessé, qu'il est attaqué par quelqu'un d'autre, c'est à lui de marquer ses points de blessure à l'intérieur de sa fiche. Et au bout d'un moment, bah, s'il est rempli trop, bah, son personnage meurt et voilà. D'accord. Donc il n'y a pas encore une gestion qui est complètement automatique par exemple dans un combat. Des choses que j'espère pouvoir mettre en place bientôt. Je commence à y avoir des petites choses, mais c'est quand même assez. Enfin, le truc c'est qu'il faut voir que Rollisteam c'est quand même un logiciel assez complexe parce que techniquement il y a pas mal d'aspects techniques un peu intéressant. Il y a de la connexion réseau, donc il y a un serveur réseau avec des gens qui se connectent dessus, il faut gérer ça en multithread pour traiter plusieurs parties en même temps, ouais. Voilà, donc il y a un aspect technique assez compliqué déjà avec ça, plus se rajoute déjà la gestion d'un système 2D, donc qui est en gros un langage de script en fait, hein, interne au logiciel,
ouais.
Parce qu'on peut créer des commandes 2D assez complexes et il faut arriver à qu'elles s'exécutent, etc. Il y a pas mal de géométrie parce qu'il y a du dessin 3D, enfin 2D pardon, donc les plans, tout ça, donc il y a un logiciel interne de dessin.
Ouais.
Il y a du chat donc pour s'envoyer des messages, etc. Bon, je suis en train de travailler sur d'autres types de médias qui vont arriver. Il y a les fiches de personnages qui sont aussi très complexes parce que techniquement une fiche de personnage c'est un visuel avec derrière une pseudo base de données quoi. Et évidemment il faut que quand le joueur modifie une valeur sur sa fiche, il faut qu'elle soit mise à jour aussi sur la fiche du correspondante du maître de jeu et qu'il y ait bien une synchro entre chaque élément quoi. Voilà, donc ça demande une complexité quand même assez grande. Ouais. Et du coup je peux pas forcément, il y a encore des aspects qui m'intéressent mais où j'ai pas eu le temps d'investir et de créer quoi.
Ok, alors je rebondis sur un truc parce que tout à l'heure tu disais bon, maintenant il y a des serveurs de jeu tout ça, mais qui dit serveur en jeu dit multijoueur, et qui disait tout d'abord pour l'Steam à la base il avait été adapté sur Windows si je me trompe pas.
Oui, Windows et Mac, ouais.
Windows, ouais. Mac, mais est-ce que, par exemple, sur une partie en ligne, on peut mélanger les versions et les OS ?
Bien sûr.
D'accord.
Okay. Bien sûr, c'est comme Mumble, en fait.
Ça,
ouais. Oui. Bah, en fait, Mumble utilise les mêmes technos que Qt. Enfin, en tout cas, le Mumble que moi j'utilise, qui n'est pas en web, utilise le même framework que ce que Rollisteam utilise. Et du coup, oui, moi je joue régulièrement avec des gens qui sont sous Windows alors que le serveur est sous Debian et moi je suis sous Ubuntu. Parce que depuis la dernière version, en fait, j'ai fait en sorte que le serveur puisse être déporté, donc il peut être installé sur une machine serveur quoi, donc si vous avez un hébergeur type OVH ou autre, hein, voilà. vous pouvez installer un serveur Rollisteam et qui peut héberger les parties quoi.
D'accord. Ah oui,
c'est un super.
Alors qu'avant, cette version là, le serveur il était uniquement compris dans le logiciel graphique, et donc les gens démarraient le logiciel en mode serveur ou en mode client quoi pour rejoindre quelqu'un. Donc il y a toujours ce mode là, mais il y a aussi le serveur à part. Et voilà, du coup c'est quand même assez pratique parce que moi ça m'a simplifié beaucoup beaucoup la vie en fait en termes de développement de faire ce changement là et voilà.
D'accord.
Est-ce que tu cherches du monde?
Bien sûr.
Pour soulager combien, un petit peu.
Ça fait combien de temps que t'es dessus et vous êtes combien à travailler dessus?
Alors ça fait depuis 2009 à peu près, ouais, je crois. 2009 que je suis dessus. Alors j'ai eu des périodes où j'ai été beaucoup dessus et d'autres beaucoup moins. Voilà, au début pas mal, après vers 2012, 2013, 2014 j'ai pas fait grand chose. J'avais d'autres choses à faire quoi. J'ai repris en fait depuis la version 1.6. Je me suis remis et en fait j'ai un petit peu. Je suis vraiment allé dans le bon sens en fait. Parce que comme en fait j'étais parti au début sur tout réécrire et tout, et que je voyais que la réécriture prenait beaucoup trop de temps et que c'était un chantier beaucoup trop gros. Et de l'autre côté j'avais des gens qui me disaient ah, j'ai des petits soucis avec la version normale quoi. Et j'étais un peu en mode, oui, bah, j'ai pas envie de traiter les problèmes sur la version normale, parce que je préférais sortir la réécriture. Mais au final, je me suis rendu compte que la réécriture sortirait pas avant... voilà, j'avais pas le temps de faire ça, et donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris le travail de la version en production, entre guillemets, et j'ai petit à petit réintroduit des éléments que j'avais créé dans la réécriture, quoi. Et donc, j'ai fini d'introduire à peu près tout ce que j'avais créé il y a 2-3 ans, je pense, à peu près. Et voilà, donc là, en général, j'essaye quand je fais une version, je fais à peu près la moitié de mon temps pour améliorer l'existant, donc on va dire casser un peu ce qui est moche dans l'architecture du code, quoi. Et l'autre moitié, c'est d'ajouter des nouvelles fonctionnalités, quoi. Voilà,
Et donc, t'es tout seul, vous êtes plusieurs?
Ouais, alors je suis pratiquement tout seul. J'ai eu des contributions de gens qui ont apporté des fonctionnalités ponctuelles, mais très intéressantes. Au début, j'ai eu la personne qui a refondu tout le système de chat. Il y a quelques contributions de temps en temps ponctuelles parce que telle personne a testé sur son compilateur, voilà, et a découvert que son compilateur un peu plus récent que le mien détecte une erreur à un endroit, voilà, des petites choses comme ça. Je commence à avoir pas mal d'utilisateurs qui font des fiches de personnages et qui les mettent à disposition. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc je commence à avoir une base de fiches de personnages qui gèrent pas mal de jeux maintenant. J'ai des traducteurs qui participent à la traduction du logiciel. Parce que le Rollsteam parle pas loin d'une dizaine de langues, je crois, à peu près. Voilà. J'ai des contributions ponctuelles, mais il n'y a jamais eu vraiment quelqu'un d'intéressé qui a consacré beaucoup de temps et surtout en fait la plupart des gens viennent contribuent pour une fonctionnalité qui leur manque ou des choses comme ça, alors pas forcément en me demandant avant si ça rentre dans ce que je vise dans le logiciel, j'imagine pour le futur de l'outil et donc ça s'emboîte pas forcément avec la vision que je veux donner. Typiquement quand j'ai changé le système 2D, j'ai travaillé pendant presque 6 mois à faire le composant 2D qui fonctionne seul, indépendamment, et après je l'ai greffé, mais entre-temps, je l'ai greffé dans Rollsteam, mais entre-temps, des gens m'avaient proposé des améliorations du système 2D de Rollsteam à l'époque, et qui était vraiment tout pourri, et du coup c'était dommage, parce que le travail qu'ils ont fait, je l'ai pas utilisé, parce que comme je venais remplacer par un outil tout nouveau qui était beaucoup plus puissant, les quelques fonctions qu'ils avaient fait pour gérer tel jeu, qui était vraiment spécifique à un jeu, je pouvais pas forcément les utiliser, quoi. Donc c'est un peu dommage pour... Et récemment, depuis un an et demi, je suis en train de faire en sorte que Rollsteam devienne un projet KDE. Et donc, par ce système-là, j'espère récupérer un peu de visibilité. Puis en plus, la communauté KDE, KDE utilise les mêmes briques que Rollsteam, donc le framework Qt. Et donc, il y a pas mal de développeurs de ce framework là-dedans. Donc j'ai eu des gens qui appartiennent à cette communauté-là, qui m'ont un peu aidé, dépanné, etc. Et ça va aussi me permettre de récupérer une équipe de traduction conséquente. Et aussi d'avoir accès au système de build en fait de KDE, et donc ça devrait me permettre de générer des versions plus facilement, genre de choses, quoi, d'avoir toute l'infrastructure derrière qui sera gérée entre guillemets par KDE, quoi. Donc ça devrait me permettre d'être un peu plus rapide dans mes développements, quoi.
Et autre question, est-ce que tu as une idée du nombre d'utilisateurs de ton logiciel?
Pas du tout. Je dois avoir une SAT qui traîne de téléchargement. J'avoue que je l'ai plus en tête, mais voilà. Par contre, j'ai des stats du bot Discord. D'accord. Par exemple, ça, ouais, parce que du coup, avec le confinement, avant le confinement, j'étais à 60 000 lancés par jour avec le bot Discord, au plus gros, j'ai eu 300 000 lancés par jour avec le bot Discord, et le bot Discord est utilisé par 125 000 serveurs Discord.
Ah oui, quand même.
J'ai eu beaucoup de succès. Au début du confinement, ça m'a pris. J'ai vu les stats un peu exploser. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui se mettaient à l'utiliser. Et donc, j'avais plein de gens qui me posaient des questions, comment ça marche, ceci, cela, et tout. Les deux premiers mois du confinement, j'avais 4 heures par jour de support à faire, quoi. J'ai pété un câble. Là, ça va mieux, c'est plus calme en ce moment. Et pour le coup, j'ai dû investir dans une nouvelle machine parce qu'en fait, le bot, il est hébergé chez moi.
Ouais.
Et sur ma machine, sur une machine perso, serveur Debian, quoi. Et la machine, elle était trop faible, et donc j'ai dû en racheter une autre. Voilà.
Parce que, 300 000 coups, tu dis, par jour, ça veut dire que ça fait. Entre 10 et 12 000 délancés par heure. C'est pas mal, hein, franchement.
Alors, je suis désolé, il faut pas dire que la machine est trop faible, il faut dire que la demande est trop forte.
On peut voir ça comme ça.
C'est comme ça qu'il faut présenter les choses.
Voilà, pour le coup, le bot Discord, il me permet de faire un peu la promo de Rollsteam, en fait, puisque c'est vraiment, c'est le même code, hein, je veux dire, il y a strictement aucune différence entre les deux, quoi.
Excuse-moi de te couper, mais le bot, il n'est pas associé forcément à Rollsteam, donc c'est-à-dire que le bot est utilisé, mais il peut être utilisé pour d'autres usages.
Ah oui, le bot...
D'autres logiciels.
Oui, tout à fait. Je connais quelqu'un qui l'a intégré dans un site personnel qu'il avait fait, où du coup, sur une espèce de plateforme de jeu en texte, où les gens peuvent lancer les dés et automatiquement le site web fait l'appel à mon outil qui est hébergé chez lui, hein, voilà. Mmh. Et donc n'importe qui peut installer le, parce qu'en fait il y a le bot, c'est juste un projet Git, on peut le compiler, et donc on peut le compiler pour avoir un utilitaire en ligne de commande qui s'appelle Dice. Ouais. Donc on peut faire dice espace et on tape une commande dans le terminal et ça exécute la commande et on affiche le résultat. Ouais. Voilà. Et moi, en fait, le bot par-dessus, c'est juste un petit script Python qui va appeler... Le petit script Python communique avec Discord, en fait, et va appeler l'utilitaire dice qui est en ligne de commande, quoi. Voilà. Et donc potentiellement, n'importe qui a Linux peut prendre mon répertoire Git, le compiler, l'installer et du coup, taper des commandes à 2D dans le terminal, quoi.
D'accord. Je reviens sur un truc, parce que tu m'as parlé de fiches de rôle, etc. Moi, le souvenir que j'ai d'il y a très longtemps, les jeux de rôle, c'est les jeux sur plateau, tout ça. Donc, c'est des jeux que tu trouves un peu soit dans les magasins de jouets ou dans les magasins un peu spécialisés. Et tu me dis, maintenant... Rollsteam, c'est un peu de la virtualisation de jeux de rôle, mais est-ce que des scénarios de jeux de plateau connus sont repris là-dessus, ou c'est des gens qui sont dans une communauté qui créent leur propre jeu avec une licence libre ou autre, pour ne pas avoir de conflit d'intérêt avec ceux qui font des jeux en boîte et qui eux ont un intérêt financier et, je dirais, légitime de ne pas voir leur bébé se retrouver comme ça sur des plateformes telles que sur Rollsteam ou autre, bref, d'être joué en ligne gratuitement sans leur accord, quoi. Je sais pas si je suis très clair dans ce que je dis, mais est-ce que c'est bien vu le jeu de rôle virtuel, ouais, par rapport au jeu de plateau classique où tu achètes une boîte et que tu vas redonner une certaine rétribution aux auteurs?
Le truc, c'est que il y a une différence à faire entre le jeu de plateau et le jeu de rôle. C'est que le jeu de plateau, t'as un design du plateau qui est parfois un dessin avec des tuiles, des cartes, des choses comme ça. Mmh. Et qui, du coup, est entre guillemets, effectivement, un peu la fierté du jeu, qui représente un peu son esthétique.
Ouais.
Et en général, les éditeurs de jeux de plateau qui veulent faire du virtuel, ils vont créer leur propre plateforme, en fait. Ils vont avoir un site dédié, une chose comme ça, où ils vont fidéliser, on va dire, leur communauté grâce à ça.
Ouais.
Maintenant, Est-ce qu'on peut le faire avec Rollisteam? C'est arrivé, j'ai des gens qui m'ont contacté parce qu'ils voulaient, tester des jeux de plateau qu'ils étaient en train de concevoir ou jouer à des jeux de plateau directement. C'est possible. Mm-hmm. Maintenant, je pense pas que les éditeurs diront grand-chose parce que de toute façon, ça reste privé. Maintenant, si vous diffusez les parties, là, effectivement, ça peut être embêtant. Je sais que j'ai des auteurs de jeux de rôle qui n'ont pas apprécié que certaines chaînes YouTube diffusent des parties de scénarios présents dans les bouquins, dans des scénarios officiels, quoi. On peut diffuser des scénarios inventés par les maîtres de jeu, mais les scénarios présents dans les livres de jeu, c'était un peu plus compliqué, mais c'est assez rare. C'est souvent des auteurs qui galèrent un peu, les gros auteurs de grosses boîtes d'édition, je pense qu'ils sont très contents de voir leur jeu jouer et ils vont pas être trop chiants là-dessus, quoi.
D'accord, ouais, il y a pas de... C'est plutôt, globalement, plutôt bien vu et même ça peut aider, quoi. Parce que comme tu disais tout à l'heure, il y a même des auteurs qui veulent se lancer sur le plateau et qui passent par Rollisteam pour essayer de...
C'est sûr que virtuellement, c'est moins cher de tester avec des briques virtuelles que de faire une fabrication, faire un prototype, tester, et du coup, si ça marche pas, refaire une fabrication, voilà. Du coup, itérer sur le jeu et rapidement. Alors, Rollisteam n'est pas forcément l'outil le mieux adapté pour ça, il peut remplir cette fonctionnalité-là, Et je sais que, par exemple, qu'il y a un logiciel qui est un peu similaire à Rollisteam, mais qui gère uniquement les jeux de cartes. Donc on peut jouer soit une belote, soit un poker, mais carrément aussi à des jeux de cartes type Magic, quoi.
Ah oui.
Et donc pour le coup, lui, il a pas de soucis, quoi. Je veux dire, c'est écrit dans sa communication, il décrit qu'on peut jouer à Magic, quoi. Et, alors que Magic a une plateforme dédiée.
Leur jeu.
Oui, c'est ça. C'est ça.
Virtuel même, hein, ouais.
Oui, ils ont un jeu à eux pour jouer à ça, quoi. Et voilà. Après, je pense que le logiciel en question, c'est un logiciel libre que j'ai en tête. Et voilà, je sais pas à quel point il est utilisé et tout, mais voilà, dans tous les cas, ils se sont pas trop posé le problème non plus, quoi. Après, le truc, c'est que c'est un logiciel, c'est la démarche, elle est de vis-à-vis de ces licences-là et des auteurs des jeux. C'est à l'utilisateur de l'apprendre, en fait. C'est pas moi en tant que l'éditeur de logiciel qui vais.
Ah non.
Qui a ce souci-là.
Tu risques rien dans l'histoire.
C'est ça.
Toi, légalement, c'est ça. Tu risques rien parce que toi, tu donnes l'opportunité de jouer, mais celui qui va faire le jeu, là, s'il dit par exemple, je prends un exemple parce que j'ai besoin d'en parler en antenne, mais genre, je te repompe tous mes requests ou des jeux de Warhammer. Non, pas des Warhammer, une bêtise. Mais
si, Warhammer, ça existe.
Il y a du Warhammer aussi.
Non, mais oui, 40 000 et du classique.
Voilà, mais je te pompe tout Warhammer, et puis voilà, hot là que je te pousse, et que je te mets tous les fiches en PDF, et puis vas-y, tu peux jouer sur Rollisteam. Je pense que là, ils vont plus poursuivre ce gars-là, parce que vous êtes gentil, mais vous utilisez nos droits. Tandis que toi, tu leur dis juste, moi je vous propose de moyens de jouer. Tu vois, légalement, c'est pas toi. Ouais, donc c'est pour ça que je me posais un petit peu la question, comment c'était vu de part et d'autre.
Mais c'est vrai qu'en tant que libriste, quand j'ai commencé à faire du jeu de rôle, en fait, le truc marrant, c'est que je me suis mis au jeu de rôle après avoir développé Rollisteam, en fait, après avoir commencé le développement, quoi.
Ah ouais?
Eh oui. Marrant, ça. Parce que, voilà.
Chut, faut pas le dire.
Et du coup, en fait, quand je suis arrivé à Paris, que j'avais fini mes études et tout, et que je commençais à travailler, sur Paris, c'est relativement facile de trouver des tables de jeux de rôle, donc je m'y suis mis et je suis rentré un peu en mode, vas-y, j'en fais plein, quoi. Parce qu'à Paris, à l'époque, c'était très facile d'en trouver, via des forums, des associations et des choses comme ça. Et voilà, et du coup, la réflexion de la définition de droit d'auteur, etc., de licence, dans une terme de partie de jeu de rôle, les usages font que personne respecte les règles liées à ça. Enfin, la plupart des gens s'en foutent, en fait. Hein, voilà. Mais c'est vrai que j'ai essayé de faire des parties de jeu de rôle en licence libre entièrement, avec les musiques en licence libre, le jeu était en licence libre, parce que ça existe, hein, des jeux qui sont sous licence libre. Il n'y en a pas des masses, mais il y en a. Et voilà. Et du coup... pour le côté un peu sportif, j'avais essayé de faire ça.
Bah, disons que globalement, c'est une sorte de tolérance jusqu'à un certain point.
Ouais.
Le jour où ça, oui, va prendre, si ça prend trop d'ampleur, là, ils commenceront un petit peu à mettre les mains dans le cambouis. Ils diront, écoutez, là, vous êtes gentil, mais vous utilisez des livres et des quêtes qui ont été écrites par un auteur et des images qui ont été utilisées par qui ont été créées par quelqu'un. Là, auquel cas, vous nous versez ou des royalties ou vous arrêtez directement, quoi. Bon, après, comme il n'y a pas une activité non plus mercantile, je pense, oui, derrière... que
là, bah, après, ouais, le jeu de rôle n'est pas un marché très, 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 très riche en France, hein, faut être honnête.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. Hein, voilà. Je crois qu'on a fait, quand on a dit Warhammer, déjà, on a dit quasiment une des plus grosses licences.
Ouais. Il y a un auteur de jeu de rôle qui dit que dans le jeu de rôle, en francophone, pour être riche, dans le jeu de rôle, il faut être riche avant de faire du jeu de rôle.
D'accord, ouais, donc ça résume bien la situation, quoi.
Ouais.
Okay,
ouais,
okay.
Ouais, du coup, voilà, c'est...
ouais, c'est
le nombre de joueurs, même s'il a grandi pas mal ces derniers temps, parce qu'on commence à... Il y a pas mal, avec la série Aventure du joueur du grenier et consorts, là. Ça a mené pas mal de gens à découvrir le jeu de rôle via ce genre de choses. Mmh. Et, pas mal de gens s'y sont mis, et avec le confinement aussi, les gens sont passés beaucoup au virtuel, en fait.
Mmh.
Et donc ils se sont rendus compte des avantages du virtuel par rapport aux parties autour d'une vraie table.
Mmh.
Et je pense que y a une forte proportion de gens qui vont quand même avoir de temps en temps des parties en virtuel plus fréquemment qu'avant, quoi.
Et puis il y a le côté jugement aussi qui est dans le sens, j'ai envie de dire, on est plus tenté à essayer en ligne pour une première partie, dans le sens où on n'est pas rattaché à... C'est pas rattaché à notre propre identité, donc si on fait n'importe quoi, même si les gens se moquent, c'est ce qui n'existe pas, je le sais, mais dans l'idée, les a priori du moins, voilà, si ça marche pas ou on fait n'importe quoi, tant pis, on ferme le site et on sort du site et voilà, on n'entendra plus parler. Donc ça amène aussi peut-être plus de joueurs à essayer, et pas rejoindre, comme tu disais, des associations, etc.
Oui, peut-être.
Je reviens également sur un truc, c'est vrai que tu m'as fait penser, mais tout à l'heure, tu parlais du loup-garou, et je me suis rendu compte qu'en fait, le loup-garou, c'est vrai que le jeu, il y a des boîtes de jeux de loup-garou, tout ça.
Alors, c'est pas le même. Attention, je parlais pas du même. Je parlais pas de loup-garou de Tiercelieu, je parlais de loup-garou Les Déchus, qui est un vrai jeu de rôle. Voilà.
Ah, d'accord, ouais, non, mais moi je parlais avec les villageois et tout.
Oui,
ça,
oui,
alors,
ouais. Ça c'est le garou de Tiercelieu. Ouais.
Voilà, il y en a plein qui. Là, moi je connais, il y a quelques temps en vacances, j'ai vu des Néerlandais qui refaisaient les cartes eux-mêmes et qui refaisaient le jeu.
Pour le coup, il y a des gens qui utilisent mon bot pour le faire, en fait. Pour énoncer des règles, choses comme ça, tirer aléatoire, genre de choses. Et après, en vocal sur Discord, ils font la plupart des trucs et le système de dés. Fait que c'est juste des paillettes, quoi. C'est vraiment anecdotique l'usage à l'intérieur, mais ouais, non, c'est faisable. Hein. Il y a même des bots dédiés, je pense, hein, pour le faire dans Discord.
Les villageois se réveillent.
Ouais, ou le bot directement fait le compte, en fait, fait la partie compte du truc, quoi.
D'accord, ok. Ah bah écoute, en tout cas, j'ai appris pas mal de choses. N'hésite. Ouais, d'ailleurs, on aurait dû faire un petit Framapad, comme ça t'aurais pu mettre quelques liens, parce que je vois qu'on en a mis dans le salon. Je vais me faire un petit Framapad pour les mettre. Ok. Bah écoute, en tout cas, je pense que c'est... Moi, je connaissais pas...
C'est déjà une bonne première partie d'émission.
Bonne hormis première partie d'émission.
Hormis
voilà.
Le jeu.
Voilà. Maintenant...
je l'ai pas dit, mais du coup, en plus de Rollisteam, en plus d'éditer le logiciel, j'alimente aussi la communauté, en fait, et je fais un peu community manager, entre guillemets, et donc j'ai une chaîne. J'ai un Discord de support technique où les gens peuvent me poser des questions français anglais et à côté de ça j'ai un blog et un avec des podcasts et une chaîne YouTube en fait que j'alimente et une chaîne Twitch.
Ah, c'est
bien, du coup tu utilises quoi vu que tu utilises pas Mumble, tu fais des tu fais des podcasts tout seul ou en groupe?
En fait, les podcasts, ce que je dis podcast, c'est des parties, hein, des parties qui sont diffusées sur un podcast et vidéo. Et en fait, nous, on est sur Teamspeak.
D'accord.
Alors, il y a une raison technique pour ça, hein, je peux l'expliquer, mais voilà.
qui aide, je suppose, pour les jeux de rôle, il doit y avoir des fonctionnalités qui t'aident bien, c'est ça?
Eh ben, en fait, c'est juste que historiquement, on était sur TS parce que quand on a commencé, en fait, on a commencé à faire du jeu de rôle en virtuel avec Rollisteam, avec le groupe là que j'ai actuellement de potes là où on joue tous les lundis depuis quelque chose comme 6-7 ans maintenant à peu près.
D'accord.
Voilà. Et du coup, eux c'était des gamers beaucoup, donc ils utilisaient très souvent TeamSpeak à l'époque parce qu'il y avait que ça. Hein, enfin voilà, pour le commun des mortels. Et donc on était sur TeamSpeak et en fait moi quand quand on a commencé, on est resté dessus par habitude. Et en fait, on est resté dessus parce que pour ma chaîne, j'ai développé un petit plugin à TeamSpeak qui me permet en fait de... Alors ça va parler technique, mais en gros, ça notifie une application graphique qui illumine en couleur les avatars des personnages quand les joueurs parlent.
D'accord.
Donc en fait, quand le MJ parle, il y a son avatar à l'écran qui apparaît en couleur, et quand il a arrêté de parler, il passe en noir et blanc. Et donc du coup, quand on regarde l'image de mes parties, on voit en fait qui parle en fait, et c'est du coup nickel. Et ça en fait je peux pas le... Alors j'ai pas essayé, peut-être que c'est faisable avec Mumble aussi, j'ai pas essayé et...
Ouais, ça, mais je vois pas
comment on peut. Ouais. Je sais pas s'il y a des systèmes de plugin dans Mumble, je sais pas si c'est faisable, mais en tout cas, voilà, et on n'est pas passé à Discord parce que Discord permet pas de le faire, de réutiliser ce que j'ai déjà fait en fait, parce que forcément j'ai le plugin qui envoie les infos, mais j'ai aussi la petite fenêtre qui affiche les avatars et qui les fait s'illuminer. Et donc voilà, donc on est resté sur DeamSpeak pour ça, et l'avantage c'est que DeamSpeak c'est pas libre, mais en tout cas c'est gratuit parce qu'on peut récupérer un serveur, on peut le mettre sur sa machine. Et on a 30 places, et voilà. Et si on veut plus de 30 places, il faut une licence, et donc payer. Voilà. Donc nous, ça nous va bien, quoi.
Bah, c'est surtout que j'ai déjà la bonne nouvelle, c'est que ça existe encore, parce que j'ai pensé que ça n'existait plus. Parce que je connaissais TeamSpeak par Counter-Strike et...
Ouais, à l'époque, ouais, il y a longtemps.
UT 2004, donc je pensais que c'était mort de sa belle mort, notamment parce que, si je me trompe pas, sur tout ce qui est console, PS4 et Xbox, ils ont leur propre système de chat en ligne, en vocal, donc je pensais que tout ça avait disparu. Hein.
Ah non, moi je trouve que TeamSpeak est mieux que Discord en termes de qualité, etc. Et voilà. Et pour le coup, Mumble, j'avais eu de très mauvais souvenirs à l'époque. Ouais. Enfin, j'avais fait des tests, mais j'avoue, j'ai pas forcément testé récemment, quoi. Mais, ouais.
Bah, Discord, moi j'ai jamais testé l'appli, je le teste qu'en ligne. C'est vraiment pas mal. Et Discord, le seul truc que je repose, mais ça je pense que c'est plus par rapport à mon navigateur ou autre, c'est que quand tu joues en ligne et que tu dois partager ton micro, t'as l'icône du micro qui reste allumé en plein milieu de ton écran de jeu, donc. Ouais.
Et par défaut, Discord limite.
Comment ?
Discord, en fait, leur business plan, il est aussi, il est moins avantageux sur ce côté-là par rapport à TeamSpeak ou à Mumble.
Ouais.
C'est le nombre de participants et tout ce qui est débit.
Ouais,
t'as un certain débit qui est réduit. Je le sais plus parce que on l'a jamais utilisé vraiment. La partie audio sur notre canal Discord, mais je sais que pour être sur d'autres canaux, pardon, j'ai du mal à parler la France, il y a une certaine limitation et elle est beaucoup plus restrictive du coup que TeamSpeak.
Attends, quand Renaud dit 30 sur TeamSpeak, c'est quand même beaucoup, hein.
Ouais, nous on est loin d'atteindre ce chiffre, mais c'est vrai que en termes de qualité, en plus ça permet d'avoir un truc décentralisé, quoi. On n'a pas on passe pas par les serveurs Discord, quoi. Voilà, on a sur notre serveur un serveur TeamSpeak. Alors c'est fermé, donc on peut pas savoir s'il envoie pas quand même des choses ailleurs, mais voilà, en tous les cas c'est plutôt pas mal, quoi. On a une bonne qualité, dans mon groupe de jeu on a pratiquement tous la fibre, donc voilà, ça permet d'avoir des débits quand même puissants, peu intéressants.
Bah ça, Fabrice il va être jaloux.
Alors
voilà. Parce que tu sais, il est dans un endroit en France où ils l'ont pas encore.
Ouais.
Tu sais, en dehors de l'île de France, il y a une. Tu sais, après le périphérique, à ce qu'il paraît, il existe quelque chose. Hein.
Ah, pour le coup,
mais
pour
c'est un mythe, ça.
Je suis après le périphérique, hein, mais.
Ah oui.
Bon, je suis pas très très loin après, mais.
Voilà, mais t'es quand même. Techniquement, t'es après le périphérique, tu vois. Bon, hé, t'es quand même avant le parc Astérix.
Ah ouais, ouais moi je suis au sud en plus, donc ouais, c'est vrai que c'est loin.
Ouais, ouais, non, mais Disneyland plutôt, on va dire.
Ouais.
Voilà, non, mais.
Ah oui, mais non.
Non, mais parce que j'ai l'impression qu'en Île-de-France, il y a deux frontières. Il y a Disneyland au sud et il y a le parc Astérix au nord. Après, bah, il n'y a plus rien.
Non, il y a Paris, il y a Petite Couronne, et après, c'est le Mordor.
Voilà. Ouais, ouais, c'est ça, quoi. Ah oui, non, bah ça va alors. Oui, donc là, ça va, on est 50-50 là. On est 50% ch'ti et 50% francilien, donc ça va. Ok, ok. Bon, en tout cas, super sujet. Franchement, super sujet. Moi, c'est une bonne découverte. Et je dirais que je suis. Alors, je sais pas si mes autres co-animateurs sont impatients, mais moi, j'ai envie de vite de me lancer dans le vif du sujet.
Bah ouais. On attend, depuis une heure et demie, on est prêt.
Je me suis tué en attendant le moment magique. Où on entend le MJ.
Bah écoute, Renaud, c'est quand tu veux.